pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Je vous retrouve avec le même plaisir. Nous décortiquons cette semaine les retombées du 29e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. La grand-messe de l'UA marquée par le grand retour du Maroc cette année a pris fin mardi après deux jours de réunion. Parmi les thèmes à l'ordre du jour, l'autofinancement, la jeunesse africaine et la sécurité, des sujets qui polarisent l'attention depuis des années. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti concrètement? Nos invités nous proposeront des éléments de réponse tout au long de cette émission. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. La majorité des chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres de l'Union africaine étaient donc réunis à Addis Abeba en début de semaine. Mais après deux jours de travaux, aucune décision majeure n'a été annoncée sur les principales questions inscrites à l'agenda. Un récapitulatif avec Abdourahman Diya.
C'est un sommet qui se voulait en tournant dans le fonctionnement de l'organisation continentale. Et le nouveau président de la commission de l'UA, élu en janvier dernier, a donné le ton dès le début des travaux.
Devant la force grande de la famille de l'Ontario, que sont bienvenues les valeurs de solidarité et de fraternité africaine. Où est passée notre société civile? Où sont passés notre secteur privé et nos mécènes?
Plus question de compter exclusivement sur les partenaires étrangers. Même si des poids lourds comme l'Afrique du Sud et l'Égypte font encore de la résistance, le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations non africaines pour financer l'Union, adopté il y a un an, est donc la solution salutaire selon les dirigeants du continent. Objectif, réduire la dépendance de l'appui extérieur qui est de 73%. Autre objectif ambitieux, faire taire les armes d'ici 2020, alors qu'au Soudan du Sud, au Burundi et dans l'est de la RDC, les populations continuent de payer en lourd tribut dans des conflits où l'Union africaine n'est que très peu présente comme interlocutrice. L'organisation apporte même son soutien au régime congolais, dont certains membres ont été sanctionnés par l'Union européenne et les États-Unis pour leur implication présumée dans des violences visant des civils. L'UA dénonce des sanctions unilatérales. Satisfaction totale de Kinshasa donc. Satisfaction également du Maroc qui vient de réintégrer l'organisation en janvier dernier après 33 ans d'absence à cause du dossier sahraoui. Rabat a réussi à faire modifier le langage jusque-là adopté par l'Union concernant le Sahara occidental qui n'est donc plus considéré comme un territoire occupé. La jeunesse qui constitue pourtant 70% de la population et qui devait être au centre des débats n'a encore une fois pas été le grand sujet du jour.
Le compte-rendu d'Abdourahman Diya. Merci bien, Abdou. L'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités via Skype du Dakar, la capitale sénégalaise. Ibrahima Kane, directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Du studio de la VOA à Washington DC, Manoj Mounoubaï, ancien porte-parole de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RD Congo. Il est maintenant le représentant de l'ONG Thinking Africa dans la capitale américaine. Et voilà, Ibrahima Kane, je me tourne d'abord vers vous pour aborder la question d'autofinancement. Aujourd'hui, le budget de l'UA est assuré à 80% par l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Qu'ont donc décidé les leaders africains pour réduire cette énorme assistance internationale?
La décision qui avait été prise était celle de janvier. Ce qui a été décidé lors de ce sommet, c'est maintenant d'aller un peu plus dans le vif du sujet pour déterminer les parts des États, les parts de la contribution des États, mais aussi la mise en place du Fonds de la paix, etc. Donc il s'agit de la mise en œuvre de la décision de janvier qui a été faite à cette session.
Et Ibrahim...